Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, pile une semaine avant la Toussaint, la fête de tous les saints. Et à propos des saints, j'ai voulu consacrer cette émission à ce qu'on appelle la communion des saints, une expression qui apparaît dans la dernière phrase du Credo. Quelle est son origine et que signifie-t-elle précisément ? C'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour, le frère Édouard d'Ivry. Bonjour frère Édouard.
Bonjour Éric, bonjour à tous les auditeurs.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté une nouvelle fois de nous faire bénéficier de vos lumières à Vivante Église, un peu au pied levé je dois dire. Je vous rappelle que vous êtes docteur en théologie, membre de l'ordre des frères prêcheurs à Toulouse. La communion des saints donc apparaît dans la dernière phrase du Credo. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avant de parler de l'origine et de la signification de cette notion, qui peut paraître un peu mystérieuse de prime abord, il faut préciser d'emblée qu'il s'agit d'un dogme de l'Église. Qu'est-ce que cela implique ?
Alors, un dogme, c'est une vérité, je dirais, résumée. C'est déjà dilaté dans tous les textes de l'Évangile et dans la Première Alliance, où il y a déjà un grand sentiment que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Regardez dans le livre des Maccabées, par exemple, les frères Maccabées font prier pour les morts. Donc il y a déjà une grande orientation vers le sens de cette communion de ceux qui ont quitté ce corps charnel et sont déjà dans l'au-delà, le Olam Abba, comme disent les Juifs, cet au-delà que nous attendons tous et qui est cette communion avec Dieu révélée dans la première alliance et dont cette révélation s'est déployée à travers la vie intime de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Donc un dogme, c'est très facile, c'est une vérité qui est diffuse partout, mais résumée en peu de mots. La communion des saints, c'est donc cette communion de tous ceux qui sont déjà en Dieu, avec Dieu, par Dieu, par son amour, et qui ont atteint donc cette communion éternelle.
Précision aussi, les seules instances qui peuvent proclamer un dogme, ce sont les conciles en présence du pape ou le pape lui-même.
Exactement, mais le pape qui parle ex cathedra après avoir donc consulté l'ensemble de l'épiscopat. Il ne parle jamais, je dirais, motu proprio, d'une manière dogmatique, sans consultation.
On en vient à la communion des saints. Quelle est l'origine de cette notion, cette expression ? Quelle est sa nature, sa signification ? Et peut-être d'abord, à quelle époque apparaît-elle ?
Alors, la communion des saints, donc, c'est très ancien, puisque vous avez cité au début de cette émission le symbole des apôtres, qui même est antérieur à ce que nous professons habituellement le dimanche, qui est le symbole des 13 saints conciles, en commençant par Nicée, Constantinople, en allant jusqu'à Florence, tous les grands conciles qui ont permis d'exprimer la foi catholique. C'est le symbole des apôtres qui se divise en une douzaine de propositions, dont il y a la communion des saints et finalement l'Église. C'est la partie sur l'Église parce que l'Église est composée d'une partie militante, c'est nous ici-bas, c'est l'Église visible, c'est l'Église des baptisés, l'Église, je dirais, que je pourrais rencontrer d'une manière structurelle, l'Église où il y a une hiérarchie, mais il y a surtout tous les fidèles qui la composent et que je vois et qui est aussi accessible que Jésus était accessible du temps de son incarnation. Et puis, il y a l'Église, je dirais, souffrante, qui est cette Église qui a déjà parcouru l'existence terrestre, dont les corps sont déjà décédés, mais qui a besoin encore de purification pendant cette étape à propos de laquelle Jésus en parle, puisqu'il dit que certains péchés ne peuvent ne pas être pardonnés ni en ce monde, ni dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans l'autre monde, il y a encore possibilité pour certains cas d'avoir des pardons des péchés. Et c'est le temps donc de ce qu'on appelle l'Église, je dirais, souffrante, qui, au purgatoire, ou on peut l'appeler purificatoire, purifie les péchés qui n'ont pas eu le temps d'être purifiés ici-bas, mais qui sont déjà bien orientés. C'est-à-dire leur option fondamentale, leur mouvement général vers la vie n'a pas été cassé, par un acte intrinsèquement mauvais qui leur aurait privé de cette espérance de la vision béatifique. Mais ils n'ont pas encore la vision béatifique. Et puis il y a le troisième niveau, c'est l'Église glorieuse, et c'est celle-là que l'on désigne dans Communion des saints plus spécialement, puisqu'ils ont atteint déjà la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu dans sa réalité la plus essentielle, mais aussi dans la communion des trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ce sont ces trois réalités, Église militante, Église souffrante et Église glorieuse, qui est signifiée dans cette communion des saints, mais plus particulièrement les derniers, c'est-à-dire ceux qui ont déjà atteint la vision essentielle de Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique.
Alors, si je dis de façon peut-être plus prosaïque que la communion des saints, c'est une solidarité entre les vivants et les morts. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus que ça?
Alors, c'est plus que ça, évidemment, mais c'est déjà ça, parce que la solidarité fait partie de l'éthos, je dirais, la vision chrétienne, l'anthropologie chrétienne, c'est déjà cette solidarité entre tous, c'est-à-dire nous sommes solidaires non seulement avec Adam, mais avec toute la descendance d'Adam, et cette solidarité donc va être du côté des vivants et du côté des morts. Jésus dit bien « Je suis le Dieu non pas des morts mais des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Or, quand il dit cela au 1er siècle, qui est le sien, le début de l'ère chrétienne, et Abraham c'est 1800 ans avant Jésus-Christ, plus son fils Isaac et son petit-fils Jacob, donc c'est très proche de ces 2000 ans avant Jésus-Christ, et Jésus dit bien qu'il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. D'ailleurs, on en a bien la preuve, c'est qu'au moment de la transfiguration, Moïse et Élie, qui ont dépassé l'âge terrestre, qui sont déjà dans l'au-delà, eh bien, apparaissent à ses côtés au moment de la transfiguration. C'est la preuve évidente qu'il y a une Église au ciel, qu'il y a des vivants au ciel et que nous sommes la communion de tous ces vivants déjà anticipés dans l'Église terrestre, mais attendant ce jour final où nous serons pleinement dans la communion de gloire.
À quel moment la communion des saints devient-elle officiellement un dogme ?
Alors, elle a été un dogme qui a été d'emblée reçu par l'Église catholique, et comme il n'y a pas eu de contestation hérétique, l'Église n'a pas eu besoin de faire autre chose que de professer sa foi dans la communion des saints, comme dans le symbole des apôtres. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de contestation suffisante, je dirais, pour que on soit obligé de faire une définition dogmatique. Disons que l'Église donne des définitions dogmatiques quand il y a contestation. Quand un petit groupe suffisamment nombreux s'étant exprimé, il y aura eu les réponses, à ce moment-là, on fait une définition. Mais le dogme, il est déjà là, si vous voulez. L'existence du diable, par exemple, on n'a pas besoin de faire un dogme. S'il y a trop de contestation, s'il y a trop de généraux jésuites qui se mettent à contester l'existence du diable, le pape sera obligé de dire « Attention, là, rien ne va plus, il faut une définition dogmatique ».
Alors, quand vous parlez de symbole des apôtres, pour que les gens comprennent bien, on parle en fait de la confession de foi, donc du credo.
Alors, le petit credo, celui qu'on utilise par exemple au chapelet, pour tous ceux qui pratiquent le chapelet, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et au lieu de dire je crois en un seul Dieu, qui est le début du grand symbole, je dirais, de la confession de foi des 13 saints conciles.
On en vient à l'Eucharistie. C'est le moment où on communie. Est-ce que la communion des saints est présente lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie ? L'Église honore-t-elle la mémoire des saints à ce moment-là ?
Alors, la communion des saints, il faut bien comprendre, c'est à la fois la communication des choses saintes, et donc je reçois les sacrements de la grâce qui me mettent en communion avec les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça d'abord la véritable, je dirais, orientation de la communion des saints, c'est recevoir la communication des choses saintes.
Donc ce ne sont pas des personnes à ce moment-là.
Si, parce qu'il y a la Sainte Trinité, et la Sainte Trinité c'est une communion de personnes. Donc d'emblée je suis orienté vers la communion des trois personnes divines, mais qui communie au plus, communie au moins. Et c'est ça le grand fait de la tête par rapport au corps. Jésus est la tête d'un corps, et ce corps est constitué de multiples ramifications, de liens et de ligaments, dirait saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens ou dans l'Épître aux Colossiens. Et ces liens et ces ligaments, c'est nous, C'est nous, l'Église de tous les fidèles, de tous ceux qui croient dans le mystère de Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette communication donc des réalités saintes que sont le baptême, que sont l'Eucharistie, que sont les sept sacrements, nous mettant en communion avec les personnes divines, nous mettent aussitôt en communion avec la tête qui est Jésus-Christ, nous mettent en communion avec ses membres. Et il y a donc la deuxième niveau de la communion des saints, qui est la communion entre nous, la solidarité, comme la danse au ciel que représente Fra Angelico, qui est si belle dans l'église de Saint-Marc. Vous voyez les anges qui dansent avec les saints qui sont auréolés. C'est magnifique, cette fraîcheur de l'art chrétien pour montrer ce qu'est la communion des saints. C'est la joie du ciel, des anges et des saints qui sont déjà au ciel avec leur corps. Notre Seigneur Jésus est déjà avec son corps au ciel, et la Vierge Marie est déjà avec son corps au ciel. Les autres sont en attente. La communion des saints, c'est dans le fond la case d'attente où nous serons tous ressuscités avec l'ensemble des hommes et des femmes saints et qui recevront de nouveau un corps qui est attendu par notre âme. Notre âme attend au ciel de pouvoir retrouver son corps, un corps ressuscité, mais Dieu attend que tout le monde soit là par esprit de solidarité, par esprit d'entièreté. Dieu est solidaire, hein, puisque vous posiez la question de la solidarité, mais ça va, vous voyez, dans un sens très haut, hein, dans le sens de Dieu qui veut que son corps soit entièrement unifié pour lui donner sa plénitude, la résurrection des corps. Mais la communion des saints est déjà anticipée dès le moment où celui qui a passé les étapes de cette vie terrestre et de la purification atteint la vision béatifique, comme on l'appelle, la béatitude plénière.
Je vais parler de l'Eucharistie, on va parler du baptême. Alors on sait que par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois, ça c'est autre chose, mais nous sommes tous appelés à être saints, ou plutôt, ne sommes-nous pas d'emblée saints par notre baptême?
Alors, certes, nous sommes déjà saints par notre baptême, puisque nous n'avons plus le handicap du péché originel, qui est une rupture de relation avec Dieu. La relation est restaurée, mais vous savez, quand une relation est restaurée, ça ne veut pas dire pour autant que tout est gagné. Dieu nous a créés libres, et il faut que nous fassions les choix conséquents de cette liberté recouvrée, cette liberté, cette libération par rapport aux effets du péché originel, mais il reste encore en nous des atavismes, il reste encore en nous des orientations que l'on appelle le foyer du péché, qui fait qu'il y a tout un combat, le combat spirituel, qui doit être mené jusqu'au bout et nous permettre d'arriver à terme. Un jour, Saint Martin était sur son lit de mort et les prêtres autour de lui commençaient à dire « Ah, mais nous avons eu un grand saint parmi nous. Saint Martin, c'était vraiment quelqu'un de très bien. » Il entendait parce qu'il était à son agonie et il a élevé la voix pour une dernière fois en disant « Tout doux, mes amis, je ne suis pas encore mort. » Et pour bien faire comprendre que le combat était jusqu'au bout. Et de fait, on l'a entendu après repousser les derniers assauts du malin autour de lui et cette puissance de prière qu'il avait pour repousser les effets du malin qui essaye de nous arracher toujours à cette communion des saints. Saint Pierre le dit bien dans sa première épître, le diable est là qui cherche qui dévorer comme un lion rugissant. Donc ici-bas, l'église militante, c'est une église de combat, c'est pas une église d'un parcours de santé tranquille, aéré, si vous voulez, on serait saint ou il suffirait de suivre le parcours. Ça va être un combat. Et le baptême nous donne les forces du combat seulement.
Par le baptême, nous recevons, par l'onction du Saint-Esprit, nous devenons saints, mais il nous reste encore beaucoup à faire, évidemment, dans la vie, par la foi, par l'espérance, par la charité, pour essayer d'atteindre une certaine perfection.
Et pour atteindre la confirmation de la grâce, et pour atteindre le choix de Dieu, l'élection de Dieu qui est déjà là, mais qui doit s'achever dans une sorte de confirmation des vertus cardinales, confirmation des vertus théologales, qui fait que quelqu'un peut être, par exemple, déclaré saint par l'Église catholique. Et ça prend toute une vie, je dirais. On juge la vie de quelqu'un sur tout ce qu'il a pu, durant sa vie terrestre, avoir à agir et si cette action a été conforme ou non au Christ à partir du moment de sa conversion, si conversion a été nécessaire sur ce chemin de grâce.
Alors, il n'en reste pas moins, et c'est important à retenir, je pense que la sainteté initiale est un don absolument gratuit, c'est une grâce.
Alors, la justification, c'est une grâce initiale, mais la sanctification est une grâce dans le temps et qui demande le concours de l'homme. De même, la grâce finale est à quémander, c'est une grâce définitive qui arrive au terme d'un parcours, mais qu'on n'a pas automatiquement. Il faut la demander encore à genoux, c'est la grâce dite de la persévérance finale. Et c'est par votre persévérance que vous serez sauvés, dit les évangiles, mais cette persévérance est déjà une grâce, donc il faut quand même la demander.
Pour résumer, avant que l'on parle des morts cette fois-ci, la communion des saints, c'est l'Église en tant qu'elle est une communion pour les vivants.
Alors, c'est l'Église, bien sûr, pour susciter chez les vivants ce désir du ciel, pour réaliser le désir de la béatitude et sans cesse nous remotiver pour ce désir de la béatitude. Donc c'est très important cette fête du 1er novembre et dont l'histoire s'est mise petit à petit en place et je crois que c'est une page importante de ce que nous avons à témoigner au cours d'une émission sur la fête de Toussaint, c'est comment ça s'est mis en place. D'abord par les martyrs. Et les martyrs ont été déterminants pour commencer à proposer aux chrétiens une méditation sur leur propre histoire. Parce que dans le fond, il y a eu Saint Étienne, premier martyr, il y a eu Saint Jacques, etc. Petit à petit, il y a eu une accumulation de grandes figures de martyrs, Pierre et Paul à Rome, etc., les saints martyrs de Rome. Et on a commencé à avoir toute une lignée de martyrs et on a senti l'obligation, dès le IVe siècle, au moment où la paix de Constantin est apparue la nécessité de prêcher sur les saints martyrs. Et les saints martyrs ont été fêtés. Et à partir de ces saints martyrs, et donc la fête a été agrandie, je dirais, autour des autres figures de sainteté. Parce qu'on a bien vu à partir du IVe siècle qu'il n'y avait pas autant de martyrs, même si il y avait encore des soubresauts de courants païens ou de courants hostiles à l'Église qui pouvaient naître, ou même des courants hérétiques qui pouvaient provoquer des nouvelles formes de martyrs. Et puis, il y avait toujours des ennemis. Dès le 7e siècle, il y a eu l'islam. Parfois, des terres entières étaient encore sous direction du judaïsme qui pouvait persécuter l'Église, comme du temps de Saint-Étienne. Donc, on a eu sans cesse des martyrs de différentes régions et on a pris conscience que ces martyrs englobaient aussi tous ceux qui, en période de paix, avaient vécu d'une manière sainte et d'une manière conforme à l'Évangile. Et donc, c'est agrandi la notion de l'Évangile. Et on peut dire que à partir de cette église de Saint-Pierre aux martyrs, qui était le Panthéon, donc cette vaste, je dirais, rotonde qui est au cœur de Rome, que tout le monde connaît, a visité, qui était d'abord une église païenne. Et à l'époque où Boniface IV, qui a été pape entre 608 et 615, s'est instauré donc une fête plus officielle, je dirais, des martyrs, qui avant avait déjà été célébrée, si vous voulez, mais d'une manière moins solennelle, sauf peut-être à Édesse, au Moyen-Orient, où il y avait déjà une date du 13 mai qui avait été en l'honneur des martyrs. Et le pape Boniface IV a étendu cette prière donc en l'honneur de Sainte Marie et de tous les saints martyrs. Et petit à petit, à partir de ce 13 mai, s'est étendu, si vous voulez, à tous les autres saints, toutes les autres figures de sainteté. Par exemple, les pères de l'Église qui étaient morts de leur belle mort, mais qui avaient été des grands témoins de la foi chrétienne. Et donc, du 13 mai, je dirais, 359, on a eu une croissance au 13 mai 610, donc de Boniface IV, puis petit à petit, eh bien, il y a eu, avec Grégoire III, avec Grégoire IV, en 835, une extension de cette fête romaine à toute l'Église. Et puis, comme en Angleterre était né un courant autour du 1er novembre, c'est vraiment les Anglais, hein, c'est paradoxal, mais les Anglais à l'époque où ils étaient catholiques qui ont eu des innovations extraordinaires en matière liturgique, l'élévation du Saint-Sacrement, nous la leur devons, et le 1er novembre. ils ont été à l'initiative donc, de belles innovations liturgiques. Et puis, la papauté recueille, après discernement, le meilleur de ce qui se passe dans les églises particulières. Et c'est à partir donc, de Grégoire IV, en 835, qu'il a été demandé donc, à Louis le Débonnaire, qui était l'empereur de l'époque, de fixer au 1er novembre cette grande fête liturgique. Donc une fête qui date du 9e siècle pour l'Église universelle. Vous voyez, mais il a fallu des constitutions progressives, passage des martyrs à tous les saints, et puis la fixation sur la date. Avant, c'était plutôt le 13 mai, hein, grâce aux églises d'Orient, où il y avait à Édesse ce 13 mai qui avait été retenu. D'ailleurs, pour nous, c'est assez émouvant, puisque c'est l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Hein, c'est pas rien, le 13 mai. Donc, il y a eu des liens entre Orient et Occident pour se fixer finalement au 1er novembre. Chez nos frères orientaux, c'est le dimanche qui suit Pâques, qui continue à être la grande fête de tous les saints, en quelque sorte. Pour nous, c'est le mystère de la Trinité, parce que c'est en amont le mystère de la Trinité. Au lendemain de la fête de Pâques, nous allons vers le mystère de la Trinité. Et donc, après le temps pascal, je dirais, c'est le mystère de la Trinité. Alors que pour les orientaux, c'est très vite, donc, dans le temps du dimanche de tous les saints. Hein, l'Église byzantine fête le dimanche de tous les saints une semaine après la Pentecôte, donc après le temps pascal. Et pour nous, après le temps pascal, c'est le mystère trinitaire, hein, parce que, dans le fond, c'est le lieu même de cette communion des saints.
Avant de poursuivre nos échanges sur la communion des saints, nous allons faire l'habituelle pause musicale dans cette émission. Nous allons écouter un très joli motet de Jean-Sébastien Bach, Singe dem Herrn, chantez au Seigneur.
Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec l'invité de ce numéro de Vivante Église, le frère Édouard d'Ivry, docteur en théologie, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse. Alors, la communion des saints, qu'est-ce qu'il en est concernant les morts? Comment se traduit la communion des saints entre les morts et les vivants? On peut dire que c'est par la prière?
Alors, c'est la prière et c'est surtout la foi. La foi qui est transmise par la révélation. Et je dirais que le lieu même liturgique de ce 1er novembre, ce sont les béatitudes. Les béatitudes que Jésus a proférées sur la montagne de Galilée, la petite colline de Galilée, où il a proféré ce grand sermon dit sur la montagne, avec la déclinaison des 9 béatitudes, dont les 7 premières sont plus caractéristiques de comment être conforme au Christ, la conformité au Christ, et ces béatitudes qui sont annoncées par notre Seigneur, bienheureux les pauvres, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, c'est l'annonce de cette communion des saints qui nous permet d'atteindre la vision de Dieu. La béatitude, c'est l'espérance chrétienne. Et cette espérance chrétienne est aussi, je dirais, rappelée dans le grand livre de l'Apocalypse, car au moment de la fête du 1er novembre, qu'est-ce qu'on lit en lecture d'évangile? Eh bien, c'est l'évangile des Béatitudes, donc Matthieu chapitre 5, mais aussi, en première lecture, l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, il y a aussi 7 béatitudes. Heureux le lecteur de ce livre, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc vous avez une annonce explicite de ce que c'est que la communion des saints. C'est celui qui meurt dans le Seigneur. En état encore de péché peut-être véniel, ou en état déjà de totale purification, pour rejoindre soit l'Église purifiante au purificatoire, purgatoire, comme on l'appelle aussi en Occident, ou au ciel directement. Donc cette béatitude est très importante, vous voyez, de la Sainte Écriture. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements blancs. C'est l'annonce du combat spirituel qu'on doit mener durant toute notre vie terrestre. Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. C'est ce que nous disions à chaque Eucharistie, que nous avons dit évoqué dans la première partie de notre émission, hein, qui était si importante, cette Eucharistie qui nous donne la communication des choses saintes pour réaliser la communion des saints, qui est au terme de cette communication des choses saintes. Et puis, heureux et saint, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Et par derrière, c'est le sacrifice du Christ qui est toujours évoqué comme moyen privilégié, évidemment, pour rejoindre cette communion des saints. Donc l'atmosphère, vous voyez, c'est l'Apocalypse, c'est le livre, dernier livre de la Révélation, pour nous mener à cette communion finale, à travers, bien sûr, les épreuves inévitables, puisque saint Paul le dit dans les Actes des Apôtres, on arrive au royaume de Dieu par de multiples épreuves. Et il ne faut pas s'attendre, comme nous disions précédemment, à un petit parcours de santé seulement. Il y a un combat spirituel pour les chrétiens.
Est-ce que dans la communion des saints, nous pouvons prier pour ceux que nous aimons, qui ne sont plus, qui sont morts? Mais est-ce qu'en même temps, on peut se recommander à leur intercession, à leur propre prière?
Alors, l'idée que les âmes dites au purgatoire puissent prier pour nous est un concept relativement récent, parce que le cardinal Bellarmin, qui est un saint jésuite, qui est docteur de l'Église, hein, ça fait partie des grandes figures de docteur de l'Église, est une figure donc relativement tardive de l'histoire de l'Église, puisqu'il est né en 1542 et mort en 1621. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à un consensus ecclésial tel que l'on puisse parler d'une vérité, je dirais, inter-ecclésiale, où l'on pourrait demander à nos morts de prier pour nous. Rien n'empêche d'une manière privée de le faire, ce n'est pas interdit, hein, de prier ses ancêtres, de prier les membres de sa famille pour nous, mais l'Église dit attention, prier, c'est d'abord prier Dieu, prier Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un culte de latrie. Après, il y a la prière, je dirais, d'intercession que l'on demande aux saints, de ceux pour lesquels on sait que leur efficacité est réelle. Ça a été prouvé par les miracles qu'on a pu obtenir d'eux dans l'histoire de l'Église, attesté par des procès. Il y a eu donc une prière que l'on peut appeler non plus d'adoration, mais de vénération, proskunesis, comme disent les Grecs, et on demande l'intercession, c'est-à-dire une sorte de médiation. Il n'y a qu'une médiation dans le Nouveau Testament, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique médiateur, mais il y a des médiations participées, parce que justement, il y a l'effet de la tête au corps. Jésus n'est pas égoïste, il ne garde pas cette médiation pour lui, il l'a distribuée aussi à son corps, la Vierge Marie en premier, elle est médiatrice de grâce, comme dit le Concile Vatican II, et cette médiation est une médiation participée, comme l'a si bien rappelé le pape Saint Jean-Paul II dans sa grande encyclique mariale. Mais les saints aussi sont en quelque sorte des médiateurs participés si nous nous référons à eux, comme nos anges. On peut prier son ange gardien. Vous savez qu'il y a toute une prière à l'ange gardien. Aux archanges, on prie les archanges, on prie les anges, on prie les saints qui nous donnent accès à des dons de Dieu que Dieu nous octroie parce qu'il veut que nous passions par eux. C'est une marque d'amour, comme dans l'Église, nous savons très bien que nous prions la Vierge Marie parce que Jésus veut que nous l'aimions, veut que nous la prions, veut que nous passions par elle pour obtenir ses grâces. C'est une volonté divine, si vous voulez. Nous ne faisons qu'appliquer, dans le fond, ce que nous avons expérimenté au cours des siècles et que la tradition atteste, cette réalité de cette communion des saints pour lesquels nous avons la sécurité qu'ils intercèdent efficacement pour nous. Les autres morts, nous ne savons pas, donc nous sommes un peu en attente de voir s'il y a vraiment des effets bénéfiques pour nous dans cette intercession. Tant que nous ne les avons pas, nous restons un petit peu sur notre faim, nous sommes prudents et nous disons à nos frères et sœurs dans la foi, bien sûr, vous pouvez prier les âmes du purgatoire, mais soyez prudents, il vaut mieux s'adresser d'ailleurs à Dieu qu'à ses saints, comme dit le proverbe, et si on s'adresse à ses saints, il vaut mieux s'adresser aux saints qu'aux âmes du purgatoire. Voilà, il y a comme une hiérarchie, si vous voulez, inévitable, entre l'unique médiateur qu'est Jésus-Christ, les médiations participées et les médiations qui sont seulement en devenir. Les âmes du purgatoire sont des médiateurs seulement en devenir. Donc, si déjà ils peuvent, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, ne soyons pas en économistes de la grâce. Ne mettons pas tous nos yeux dans le même panier. Ce serait un peu dangereux de nous adresser qu'aux âmes du purgatoire, comme certaines dévotions ont tendance à le faire. Et nous disons, attention, là, il y a peut-être un petit danger de trop s'adresser seulement aux morts de nos familles. Pensons d'abord aux saints qui ont été canonisés, c'est la sécurité.
Oui, alors je reviens justement sur quelque chose que vous avez abordé là dans votre intervention. On ne peut pas prier les saints directement. Les seuls qu'on peut prier directement, c'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. En revanche, on peut se recommander à l'intercession des saints.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la prière de proskunesis, de vénération. On vénère les saints, on ne les adore pas, il n'y a que Dieu que l'on adore, il n'y a que Dieu que l'on prie au sens le plus fort du terme. Mais quand je dis à quelqu'un « je vous prie d'entrer dans cette salle en lui ouvrant la porte », on voit bien que le mot « prière » a des déclinaisons différentes, tout simplement parce que un chrétien intelligent est un chrétien qui comprend l'analogie des choses, c'est écrit dans le livre de la Sagesse. Eh bien, l'analogie, ça veut dire la proportion. Il y a une proportion maximale qui est donnée à Dieu et une proportion participée qui est donnée à la Vierge Marie et aux saints que nous savons l'être par les procès de l'Église qui sont très saints puisque l'Église y engage son infaillibilité dans les canonisations des saints.
Alors vous avez employé le mot « ancêtre » aussi. On sait que dans certaines traditions religieuses, il existe ce qu'on appelle le culte des ancêtres. La communion des saints, ce n'est pas la même chose. Soyons clairs.
Alors, soyons très clairs, puisque justement, ces ancêtres, nous ne savons pas s'ils sont au ciel ou pas. Ils peuvent être en enfer, ils peuvent être au purgatoire. L'Église s'est engagée sur la réalité de ces trois réalités, l'enfer, le purgatoire et le ciel. Mais elle ne sait pas. elle ne sait pas. Elle ne sait qu'une chose, c'est que certains sont au ciel et que nous en avons la certitude intérieure. Nous le savons pour la Vierge Marie et pour les apôtres, pour les grands saints qui ont été canonisés. Pour les autres, ça reste un mystère. Donc, nous ne pouvons pas nous engager sur ces ancêtres. Ils sont, bien sûr, des personnes qui font partie de notre généalogie, qui font partie des personnes que l'on respecte, parce que c'est par eux que nous avons reçu, dans le fond, les germes même d'Adam et d'Ève. Et donc, nous devons être dans l'expectative de peut-être les retrouver au ciel un jour, mais nous ne savons pas.
Alors, malgré tout, la communion des saints, c'est tout de même l'idée qu'il y a un lien qui demeure entre les vivants et les défunts, et notamment un lien d'amour qui perdure et qui peut même grandir par-delà la mort.
Alors, cette possibilité de croissance est tout à fait réelle, parce que si notre suffrage, comme on l'appelle, c'est-à-dire notre prière pour les morts, est efficace à travers toutes les œuvres de miséricorde que l'Église nous propose. En particulier, il va y avoir la grande année de 2025, qui est une année jubilaire, où il y aura des suffrages qui pourront être particulièrement obtenus avec plus grande facilité pour nos morts. Eh bien, nous pouvons espérer qu'il y aura croissance du nombre de cette communion des saints. Il y aura plus de saints au ciel qui seront dans cette communion. Nous ne serons pas l'identité individuelle un à un de chacun, mais nous savons qu'il y en a nécessairement beaucoup. L'Apocalypse parle de 144 000, mais c'est un chiffre symbolique. C'est 12 fois 12, 144 multiplié par 1000, ça veut dire des milliers, de myriades et de centaines de milliers de myriades. Nous ne sommes pas comme les témoins de Jéhovah qui pensent que le chiffre de 144 000 est littéral et qu'il faut s'arrêter. Pour nous, ce sont des chiffres symboliques qui signifient donc une immensité. Et d'ailleurs, l'Apocalypse dit bien, je vis une foule immense. Et cette foule immense est constituée de tous les saints qui, sous l'autel de Dieu, avec les martyrs, crient vers Dieu, vers la fin de ce temps, pour que s'achève le temps et que vienne la plénitude des temps qui sera Dieu tout en tous, selon l'expression de la première épître aux Corinthiens, qui est finalement l'achèvement de cette sainteté, Dieu tout en tous. Et nous pouvons être donc dans l'espoir que grand sera le nombre de nos amis, de nos ancêtres qui atteindront cette plénitude. Mais nous n'en avons pas du tout la certitude, si vous voulez, c'est ça. Il faut rester dans l'espérance, bien sûr, que Dieu fera croître ce corps et que nous pouvons intercéder dès ici-bas pour cette croissance. Nous avons les moyens. Dieu a donné le pouvoir de lier et de délier aux apôtres et les apôtres nous mettent à notre disposition ce pouvoir de lier et de délier par nos suffrages. C'est ce que dit Jésus au moment de la résurrection, au moment où il s'adresse au collège des 11 qui sont là au soir de sa résurrection. Il souffle sur eux l'Esprit Saint, il leur donne l'Esprit Saint et il leur dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous lui délirez sur la terre sera délié au ciel. C'est extraordinaire, c'est-à-dire on peut augmenter, si vous voulez, par notre suffrage, par notre prière, activer cette croissance de la communion des saints au ciel.
Et c'est en ce sens que la communion des saints est un dogme qui va dans le sens de la consolation. C'est peut-être même le plus consolant après celui de la résurrection, bien sûr.
Exactement. La résurrection, c'est la résurrection des corps sur le modèle de Jésus. Jésus est le modèle de notre résurrection des corps, mais nous savons que par esprit de solidarité, la communion trinitaire attend que le dernier élu soit arrivé à son terme, à sa béatitude, pour donner à tous la résurrection des morts de tous, mais ce sera la fin du monde. Et Saint Jean chapitre 5 le dit très bien, il y aura la résurrection des bons, de ceux qui auront été du côté de la vie, de la culture de la vie, et malheureusement aussi la résurrection de la damnation pour ceux qui auront été vers la culture de la mort. Donc il faut faire son choix. Et dès le Deutéronome, Dieu le dit, choisis la vie et le bonheur et ne choisis pas la mort et le malheur, parce qu'il y aura résurrection aussi de ceux qui seront morts, mais pour l'éternité de damnation. Et nous souhaitons que aucun d'entre nous qui nous écoute n'y accède, mais accède bien au contraire à la résurrection de vie, la résurrection d'entre les morts. En attendant, vous le dites très bien, la communion des saints, c'est déjà pour maintenant, c'est déjà une espérance et c'est déjà une réalité auquel on accède par l'amour. L'amour est la grande porte qui ouvre cette communion des saints.
Et c'est pourquoi la communion des saints est aussi très liée à la notion de rédemption.
C'est la rédemption, bien sûr, en acte. La communion des saints, c'est la rédemption en acte. Et quand nous lisions l'Apocalypse qui disait « Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau », c'est bien cela, c'est cette béatitude acquise par le sang de l'agneau gratuitement, parce que les dons de Dieu sont à la fois gratuits et sans repentance, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Dieu aime à donner encore, et le ciel sera cette révélation totale de l'effet extraordinaire de la croix du Christ sur toute notre vie, jusque dans la résurrection au dernier moment. Dans la mesure où moi, je vis saintement ma relation à Jésus, je suis déjà dans cette communion des saints. Vous voyez, ce n'est pas seulement une réalité pour après. Et pour bien marquer la différence, l'Église, à partir du XIe siècle, a identifié le 1er novembre comme fête de tous les saints et le 2 novembre pour bien manifester notre prière de suffrage pour nos défunts, pour bien montrer, si vous voulez, que tout n'est pas automatique. On ne peut pas dire « nous irons tous au paradis », comme ça a été chanté il y a quelques décennies d'une manière trop naïve. Nous pouvons tous aller au paradis si nous le voulons bien, si nous sommes christo-conformés, si nous acceptons d'être conformés au Christ. Alors oui, nous pouvons aller au paradis, mais c'est entre nos mains et nous ne savons pas. Comme disait un jour un prêtre avec humour à quelqu'un qui lui disait que nous irons tous au paradis, il disait « laissez-moi la liberté d'aller en enfer ».
Eh bien, nous allons terminer sur cette note d'humour. Le moment est venu de conclure cette émission. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir apporté vos lumières, frère Edouard, sur ce sujet passionnant de la communion des saints. J'espère que nous aurons éclairé nos auditeurs à propos de ce dogme qui me paraît fondamental pour les chrétiens que nous sommes à l'approche de la Toussaint. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de cette émission. À la semaine prochaine.